nous démarrons l'émission « Une heure en Palestine » qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Fanny la Compteuse de BDS Marseille et Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui vous propose cette émission de Noël. Et Sidi qui est à la technique. Merci Sidi.
Merci.
Je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualité, documents de fond, pages culturelles ou sportives et bien sûr, informations locales. Vous pouvez aussi nous écrire à assopalestine13@gmail.com. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, la page Palestine 13. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter le site de BDS France et le site de BDS Marseille France. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 25 décembre. Nous avons préparé cette émission en pensant aux Palestiniens et spécialement aux Gazaouis enfermés, quasiment privés d'eau et d'électricité, privés de liberté. Nous avons préparé cette émission en pensant aux prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes sur le territoire israélien, contrairement aux conventions de Genève qui interdisent cette délocalisation des prisonniers. Nous dédions cette émission aux prisonnières, aux prisonniers et aux centaines d'enfants prisonniers. Les musiques de cette émission seront deux versions de la chanson « Awak », la version originale et la version du trio Joubran qui eut un succès fou lors de sa présentation à la Criée lors des dernières rencontres d'Averroès. Avant de démarrer l'actualité, je voudrais vous signaler que le magnifique film d'Elia Suleiman, « It must be even » est toujours à l'affiche dans notre région. Courez-y. Ce film, ovationné à Cannes, il a eu le prix spécial du jury et il a été applaudi pendant 6 minutes après sa présentation officielle et bouleversant d'intelligence. Je vais vous lire la critique de ce film, écrite par le grand reporter Pierre Barbancet dans L'Humanité. Cette critique est savoureuse. L'un des plats favoris des Palestiniens s'appelle le makloubé, en anglais l'upside down, du poulet avec du riz et des amandes, ainsi appelé parce que pour le servir, on le renverse un peu comme une tarte tatin. C'est un peu, toute chose égale par ailleurs, l'idée qui anime le réalisateur palestinien Elia Suleiman dans son dernier film présenté à Cannes, It Must Be Even. Lors de la fameuse trilogie qu'il avait proposée auparavant, Chronique d'une disparition en 1996, Intervention divine en 2002, qui lui avait valu le prix du jury à Cannes, et enfin Le temps qu'il reste en 2009. Le cinéaste apparentait la Palestine à un microcosme du monde. Cette fois, c'est le monde qui est présenté comme un microcosme de la Palestine. Toute ressemblance étant fortuite, Elia Suleiman est néanmoins un homme de Nazareth. C'est là que tout a commencé pour lui. C'est là que Elia Suleiman, campé par le réalisateur lui-même, déjà rencontré précédemment, observe, avec son faux air à la Keaton, les mains toujours croisées dans le dos, semblable quand il n'est pas de face à Andala, ce personnage créé par le caricaturiste palestinien Naji Al-Ali, assassiné à Londres en 1987 par les services israéliens, en permanence confronté à la dualité des situations des protagonistes, qu'ils soient frères, machistes ou flics. Elia Suleiman s'envole pour Paris, puis destination New York. Il n'y a là que des situations somme toute ordinaires. La superficialité qui s'étale en France, comme aux États-Unis, n'est pourtant que la partie immergée de l'iceberg. Certes, à Nazareth, on ne voit pas des jolies filles en tenue éclatante s'exhiber dans les rues ou s'embrasser à pleine bouche. Derrière ces lunettes, Elia Suleiman sent pourtant que l'envers du décor est moins reluisant et ressemble à s'y méprendre à ce qu'il a quitté. Des avions de chasse déchirent le ciel pour une démonstration de force. Les chars, canons pointés, défilent fièrement. La police patrouille sans cesse dans un chassé-croisé chorégraphique. Quant au checkpoint, si présent en Palestine, il pullule maintenant à Paris comme à New York, aux entrées des aéroports et des centres commerciaux. On pourrait même y ajouter à l'entrée du Festival de Cannes. Si loin, si proche, l'atmosphère sécuritaire violente envahit le globe, nous dit Elias Suleiman. Mais il fait surtout œuvre de documentaire politique. D'abord, il utilise son arme de prédilection, arme fatale, le loufoque, voire le burlesque et l'absurde, le rire lucide. Les instants sont d'autant plus décalés qu'ils éclatent à l'image avec très peu de dialogue. Lui parle à juste titre de poésie du silence qui est au cœur du langage cinématographique. On l'oublie trop souvent. Une caresse tendre pour ceux qui subissent le dérèglement du monde, chauffeur de taxi à Big Apple ou SDF à Paris. La réflexion est moins légère qu'il y paraît. Que signifie être chez soi quand les traces du passé s'envolent, que les chansons traditionnelles font place à une musique synthétique sans frontières et que tout se ressemble. Elias Suleiman finit par rentrer à Nazareth en ayant observé qu'il est chez lui, partout et nulle part ailleurs. Heureusement, le citronnier qu'il avait planté avant de partir a poussé, les fruits mûrissent éclatants, l'espoir existe encore. Donc c'était la critique de Pierre Barbancet dans l'Humanité pour le film de Elias Suleiman, It Must Be Even, qui est toujours sur nos écrans.
À Marseille, il est au César.
Voilà. Alors j'en viens à l'agenda. Alors, des dates à noter, prenez vite vos crayons. Donc, une date proposée par le Secours Populaire Palestine 13 et le Comité Palestine Martigues, lundi 6 janvier à 11h, au Secours Populaire, 169 chemin de Gibes, dans le 14e. Alors, le métro, c'est le bus 89 à partir de Bougainville ou National, à l'arrêt Saint-Gabriel. Donc, le 6 janvier à 11h, une rencontre avec la psychanalyste palestinienne Sama Jabr. Donc le programme, c'est de 11h à 13h une conférence et à 13h une collation solidaire. Alors Sama Jabr, on la connaît bien, elle est diplômée de l'université de Al-Quds à Jérusalem, de l'université Paris 6 et Paris 7 à Paris et de l'Institut israélien de psychothérapie psychanalyse. Elle traite les dommages psychologiques de l'occupation israélienne, à la fois au niveau de l'individu et de la communauté palestinienne. Elle a dirigé le centre médico-psychiatrique de Ramallah et aujourd'hui, elle est à la tête de l'université de services de santé mentale en Palestine, en parallèle de son travail dans le secteur privé comme clinicienne et formatrice. Elle travaille également comme consultante spéciale auprès d'ONG locales et internationales. Et une grande partie de ses activités est axée sur le travail de sensibilisation du public local et international à l'importance de la santé mentale et aux méfaits de l'occupation sur l'intégrité psychique du peuple occupé. Donc le lundi 6 janvier à 11h. Et alors vous pourrez retrouver Sama Jabr à Martigues le 9 janvier à 20h au cinéma Jean Renoir. Elle sera là et présentera un film qui lui est consacré, réalisé par Alexandra Dols et qui s'appelle « Derrière les fronts ». Donc le 9 janvier à 20h au cinéma Jean Renoir. Sama Jabr sera aussi le lendemain à Gardanne. Vous retrouverez tous les horaires sur notre site asso-palestine13.org. Le 9 janvier sera une journée difficile car il y aura également au cinéma Variété à Marseille le film Le Char et l'Olivier qui sera présenté par son réalisateur Roland Nurier et par Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la Palestine. C'est un film qui connaît actuellement un grand succès et des salles comblent lors de sa présentation. Le film Le Char et l'Olivier rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés et apporte un éclairage sur l'histoire de la Palestine, ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien de son origine à aujourd'hui. Donc apprendre le passé pour comprendre le présent. Un petit mot sur les réalisateurs. Roland Nurier, il était gestionnaire d'une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire installée dans le Rhône. Et après un voyage en Cisjordanie, le voilà devenu réalisateur de films, du film documentaire Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, qui relate le conflit israélo-palestinien et son histoire au travers de témoignages et d'interviews. Ce film réunit analyse géopolitique, interviews de personnalités internationales, experts sur ce sujet et témoignages, bien sûr, de citoyens palestiniens et français. Il propose des clés de compréhension et souhaite débarrasser les esprits des clichés et idées reçues. Le film parlera d'un territoire magnifique et d'un peuple qui affirme sans cesse que vivre, c'est déjà résister. Un film n'a pas manqué. Et si vous avez, qui vous donnera peut-être envie d'aller en Cisjordanie, parce qu'à Gaza, on ne peut plus y aller. Et il y a beaucoup sur le site de Palestine 13 de propositions de voyage, le sentier de randonnée, le sentier d'Abraham, un voyage en Mars. Enfin, il y a plusieurs propositions. Alors, une autre invitation à noter dans vos agendas. Palestine 13 et la librairie Maupetit vous invitent à une rencontre mensuelle. Palestine, j'écris son nom. J'écris ton nom. La première de ces rencontres est prévue mercredi 22 janvier 2020, de 16h30 à 19h, avec Annie Fior, auteure de l'ouvrage « La grande marche du retour ». Des camps de réfugiés palestiniens et des villages détruits partiellement ou totalement montent des voix à la mémoire du peuple palestinien. Annie Fior recueille des témoignages de réfugiés, restitue la destruction de leur village dans le contexte de la déstructuration programmée de la société palestinienne. Née à Marseille, d'une famille d'immigrés italiens venus en France pour fuir misère et fascisme, Annie Fior est titulaire d'un master de droit international et c'est une rencontre à ne pas manquer. Donc le mercredi 22 janvier, de 16h30 à 19h, à la librairie Maupetit. Une seconde rencontre, j'écris ton, oui, t'as raison, organisée à l'invitation de Palestine 13 et de la librairie Maupetit sur la Canebière, est prévue mercredi 22 février de 16h30 à 19h. Et elle aura pour invité Pierre Stamboul, qui parlera de son ouvrage « La Nakba ne sera jamais légitime ». Il, donc, dans son ouvrage, il évoque qu'à l'origine de la guerre menée contre la Palestine, il y a la Nakba, la catastrophe, l'expulsion programmée d'un peuple. Le livre explore, d'un point de vue juif antisioniste, comment se déroule la destruction de la société palestinienne et avec quelle complicité il prône pour en sortir le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Pierre Stamboul est professeur retraité, issu d'une famille de juifs résistants étrangers, famille maternelle exterminée, père déporté, rescapé du groupe Manouchian. Donc ses autres ouvrages sont « Israël, Palestine, du refus d'être complice à l'engagement »,« Le sionisme en question » et « Chronique de Gaza, mai-juin 2016 ». Donc le 12 février à la librairie Maupetit. Avant de vous passer la première musique, nous allons nous lire un petit poème qui nous a beaucoup plu pour ce jour de Noël. C'est Fanny qui va vous le lire.
« À deux pas du mur, il est né. » Derrière un rideau de ferraille, dans un camp pour les réfugiés, sur le ciment couvert de paille. Les couteaux blancs des projecteurs découpaient le ciel en morceaux. Le ciel appartient aux vainqueurs et les murs ne vont pas si haut. Dehors, on entendait courir, on entendait les coups de feu, cris de la haine, appel à Dieu, dans la nuit si lente à mourir. À deux pas du mur, il est né. Ce n'était pas du bon côté. Il faut s'attendre à des problèmes lorsque l'on naît à Bethléem.
C'était un poème « Noël en Palestine » de Christian Vacrenier. Merci Fanny, c'est une très belle lecture. Donc nous allons vous proposer la première pause musicale avec la musique du film, la musique Awak dans la version traditionnelle.
وانسى روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وارعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني
Après cette pause musicale, et parce que c'est le jour de Noël, Fanny va nous lire un texte magnifique de Amir Hassan, Le parfum du passé.
C'est un hommage aux grand-mères, et particulièrement à sa grand-mère, que rend Amir Hassan. Le premier jour de l'année, c'est son anniversaire. C'est d'abord une longue histoire à raconter, pour ceux qui ont oublié que le verbe naître au futur devient mourir. Quand j'ai terminé le baccalauréat, j'ai décidé que j'irai la voir tous les jours. Je me suis inscrite à l'université et ma promesse a disparu en même temps que tous mes amis, partis très loin. Pourtant, elle habite juste en face de notre immeuble. Il me suffit d'un rien pour traverser la rue et monter l'escalier. Puis je tape à sa porte. Elle demande comme d'habitude « Qui est là ?» J'attends 2 minutes, puis elle arrive. Elle ouvre la porte. Elle me dit « Je savais que c'était toi. » ce n'est pas trop fatigant d'aller la voir chaque jour. Mais bon, la vie parfois nous vole à nous-mêmes, vole ce qu'on aime, ce qu'on veut. Et nous, on laisse les visages disparaître, tout simplement, en sachant qu'on est en train de perdre notre passé. Néanmoins, la vie continue de jouer sur la scène de notre mémoire. Elle est comme toutes les grand-mères palestiniennes, réfugiées, qui font rire quand elles parlent et font pleurer lorsqu'elles se taisent. Elle est le parfum du passé, l'encre blanche, la mémoire d'éléphant. Elle est la première maison et la première victime. Ses paroles sont des leçons d'histoire pour une nouvelle génération qui n'a pas d'histoire. Et son visage est la carte d'un pays depuis plus de 60 ans. Ses cheveux sont lâchés. Dans ses yeux, je vois la Méditerranée, où je n'avais pas le droit de nager. Sur ses mains, les chemins qui conduisaient à son école, à sa maison. J'y vois aussi les âmes des arbres qu'elle avait plantés. Et dans sa voix, j'entends leurs graines chanter l'amour, l'espoir et la paix. Elle avait 77 ans. Pourtant, je la voyais belle. C'est vrai que le temps est plus fort que la mémoire. Mais il n'est jamais plus fort que la beauté. Comme la Palestine occupée, toujours belle, bien habillée, qui, malgré les pièges, se montre élégante. Jeune fiancée espérant qu'un jour, elle pourra changer cette robe noire pour fêter le retour de son peuple éloigné d'elle. J'avais découvert la date de son anniversaire quand je lui avais demandé de me montrer sa carte d'identité pour voir sa photo lorsqu'elle était jeune. Et j'avais été étonnée que sa date d'anniversaire soit le 1er janvier. C'était très beau. Mais comme l'occupation nous a appris que le bonheur des Palestiniens est une préparation à un grand malheur, elle m'en a raconté l'histoire. En 1948, durant l'Exode, les soldats israéliens ont demandé à son père de regrouper sa famille et de quitter la maison. Ils n'eurent pas le temps de prendre leurs papiers et leurs affaires privées. C'était le premier jour de l'entrée de l'armée israélienne dans la ville de Jaffa, sa ville natale. Puis ils ont bombardé la maison. Elle regardait les larmes aux yeux, les mots « assassinés », les pierres violées, les jouets transformés en martyrs, les papiers en oiseaux. Le chagrin devenait un nouvel ami. Et comme toutes les autres familles, elle est venue à Gaza avec son père. Il lui disait « Ne pleure pas, Nama, on va bientôt revenir. Je vais construire une nouvelle maison. » Et ce mot « bientôt » dure depuis plus de 60 ans. Quand les autorités israéliennes firent les cartes d'identité à Gaza pour les réfugiés, ma grand-mère, comme la majorité d'entre eux, avait oublié sa date de naissance. Quand je lui ai demandé en riant comment il était possible d'oublier une chose pareille, elle m'a dit qu'un chiffre n'est jamais important. 1, 2, 3, 1000. Des millions de martyrs, tu peux les compter. Mais la date de son anniversaire était le dernier de ses soucis, qu'elle n'y avait jamais pensé, et qu'à partir de 1948, le 1er janvier était le jour où il y avait le plus d'anniversaires en Palestine. Que faire pour régler un problème pareil? Comment se rappeler de son anniversaire autant où elle avait oublié même les prénoms de ses amis, au temps où l'occupant faisait passer ce message aux Palestiniens. Le jour où vous êtes venu à la vie, c'est le jour de votre mort. Car la vie sans identité, c'est comme la mort sans enterrement. J'avais décidé d'aller la voir le 1er janvier, en pensant que cela la rendrait peut-être encore plus heureuse. Et j'y suis allée, j'avais une idée en tête. Lui proposer d'aller avec moi à la mer. Car cela faisait longtemps qu'elle n'était pas partie de chez elle. Quand je le lui ai dit, j'ai remarqué son peu d'envie, ou bien une hésitation. Après avoir bu le thé et parlé de sa ville natale comme à son habitude, elle a évoqué son frère qui lui avait enseigné la poésie. Elle me dit, je ne savais pas que le poème pouvait aussi être martyr. Sa mère n'était pas à la maison ce jour de 1948. Il ne l'avait jamais retrouvée. Et la série des chagrins a commencé. Je l'ai aidée à mettre ses vêtements. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, « Tu sais, je n'aime pas te le dire, mais il se pourrait que ce soit ta dernière demande pour moi, et je ne veux pas que tu sois fâchée contre moi. » Je lui ai répondu, « Mais non, c'est juste pour te faire plaisir. On va aller à la mer et manger là-bas. » Elle a ajouté, « Cela fait 5 mois que je ne suis pas sortie de la maison. » J'ai tenu sa main pour l'aider à descendre l'escalier. Puis on est sorti de l'immeuble. Et là, je reçus un choc. Le silence devint roi. Les larmes dessinant un chemin. Un chemin vers une autre réalité. Une autre histoire. Je la regardais. Je cachais mes larmes et elle essayait de me montrer que tout allait bien. De ne pas penser que le jour de son anniversaire lui avait réservé un cadeau. Et moi, j'avais insisté pour découvrir ce cadeau. Avec le temps, elle n'arrivait plus à marcher. Et elle ne le savait pas, car elle faisait chaque jour quelques pas de sa chambre à la cuisine, puis de la cuisine aux toilettes. Cette fois, ce n'était pas de sa faute, mais de la mienne. C'était moi qui étais venue en retard et qui avait offert un cadeau triste pour une femme triste depuis 60 ans. On était obligés de retourner à la maison. Elle a aperçu mes larmes et m'a dit « Mais il ne faut pas, mon chéri, c'est la vie, aller-retour. Et pour nous, les Palestiniens, on aura un jour ce retour. Même si je ne suis pas avec vous, vous aurez la clé après ma mort. Et pour moi, il ne faut pas s'inquiéter. La solitude m'a appris que les murs sont plus fidèles que les hommes. Tu sais, entre ces murs, je ne me sens jamais triste. Car quand je chante, ils répètent. Ils sont la chorale. Si j'ai peur, ils me protègent. » Je l'ai regardé tristement. Et je lui ai dit, « Pardonne-moi. Je voudrais être un mur pour rester à tes côtés. » Mais comme le disait mon père, l'homme réagit toujours trop tard. Et c'est vrai, on n'opère pas la mort. Elle faisait des rêves incroyables. Elle savait que la maison avait été détruite, même devant ses yeux, mais elle gardait toujours la clé. Elle écrivait dans ses poèmes que les maisons sont coupables et les rêves sont faisables et l'amour ne s'explique pas. Hommage à ceux qui ont planté la Palestine dans leurs âmes.
Merci Fanny pour ce conte magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Donc nous allons passer notre deuxième morceau musical, la musique de Awak par le trio Joubran. Thank you.
واتمنى لو انسى وانسى روحي وي وان ضاع تبقى في بالي لو تنساني اهوى واتمنى لو انسى وانسى روحي وي وان ضاع تبقى في بالي لو تنساني انسى وتريني بنسى جفا واشتاق لعذاب معا والادموع فكرة ترجع تاني في لقاك الدنيا
Thank you. Ukraine.
Après cette version plus moderne de Hawak, nous allons passer à un autre conte palestinien plus gai. Donc Fanny, c'est à toi.
Le sage. Il était une fois un vieillard centenaire. Cet homme avait deux fils. Et tous les trois habitaient dans une vieille cabane, toute bancale, de l'autre côté de la ville. Ils étaient misérables et ils n'étaient pas heureux dans la vie. Tous les jours, les deux garçons allaient à la ville et tentaient de trouver du travail. Le soir, quand ils rentraient, ils ramenaient de quoi manger. Mais ça n'était pas tous les jours qu'ils pouvaient ramener quelque chose à manger. Or, un soir, les deux frères sont rentrés dans leur masure sans le moindre crouton de pain, même pas une feuille de salade. Ils se sont assis par terre, la tête basse, silencieux. Ils écoutaient le bruit de leur estomac vide qui gargouillait. Leur père s'est assis à leur côté avec son bol vide et il a dit « Les enfants, j'ai faim ». Les deux garçons ont grogné. Une mouche est entrée dans la maison. Elle a bourdonné un moment. Elle est sortie par la lucarne. Le vieillard a dit « Je déteste avoir faim, mais je déteste encore plus vous voir affamé, maigre et guenilleux. » Et tous les trois, ensemble, ont poussé un soupir. Au loin, un chien a hurlé. « Mes enfants, vendez-moi !» a dit le père. Et les deux garçons ont pensé que le père était devenu fou. Le père leur a jeté un regard acéré et il a poursuivi tranquillement son idée. Menez-moi au marché, posez-moi sur une couverture et mettez à mon cou un écriteau sur lequel vous aurez écrit proprement « Sage à vendre, bon prix ». J'ai en tête des trésors de conseils, de bon sens, des réponses qui n'ont jamais été données. Mon acheteur pourra me consulter sur tout. Je répondrai à toutes ces perplexités, toutes ces questions. Par ailleurs, à mon âge, mon entretien ne lui coûtera pas cher, puisque je m'habille de peu, me nourris de peu. Couché, assis, je dors n'importe où. À bien y réfléchir, je suis une excellente affaire. C'est dit, demain vous me vendrez, et avec l'argent que vous aurez gagné, vous le ferez fructifier. Pour l'heure, bonne nuit. » Et le vieillard s'est endormi, assis. La volonté d'un père était indiscutable. Le lendemain matin, les deux frères l'ont amené au marché. Un négociant fortuné a trouvé l'affaire amusante. Alors il a acheté le vieillard pour 1000 dinars en pièces d'or. Puis, il l'a chargé sur un âne qu'il a loué et il l'a ramené chez lui. Il l'a installé dans une petite pièce vide, au bout du jardin. Dans la pièce, une fenêtre, un matelas au sol. Et sur le champ, le riche commerçant a voulu éprouver ses talents. Et il lui a dit, « La paix sur toi, mon vieux père. J'ai besoin d'un conseil. Dis, goûte ce miel. J'ai l'intention d'en acheter quelques milliers de pots. Est-il de bonne fleur ?» Le vieil homme l'a flairé. Il a risqué sa langue dedans. Il a inspiré un grand coup et il a répondu « Seigneur, il est agréable au palais. Mais je crains qu'il ne soit pas bienfaisant. Ce miel a été fait d'un pollen qui sent la mort humaine. Oh, tu ne fais que goûter. Comment peux-tu savoir une chose pareille ?» Seigneur, apprends ceci. Le savoir est l'époux, la saveur est la mère et la fille est la vérité. J'ai des doutes, a répondu le négociant. Puis il est allé voir l'apiculteur pour lui demander où ses abeilles butinaient. Et l'apiculteur lui a montré du doigt, au loin, un immense champ d'oliviers. Et au bout du champ d'olivier, un mur derrière lequel il y avait un cimetière. Le marchand, émerveillé, est retourné en hâte chez lui. Il a pris l'aïeul dans ses bras et lui a dit « Ô sage, ô ornement majeur de ma demeure !»« Seigneur, a répondu le vieux, Dieu me garde d'être ce que vous dites. Je ne veux pas orner votre maison. Je veux, si c'est possible, être utile. C'est pour ça que j'ai été acheté. Servez-vous de moi ou laissez-moi en paix. » Vieillard, ces paroles sont si pertinentes qu'elles valent un dîner royal. Et le négociant a fait servir au vieillard un repas de pain tendre et de mouton rôti. Au premier jour de l'été, le négociant est retourné voir le vieux. « Le salut sur toi, grand-père. Écarte le rideau et regarde dehors. Que vois-tu ? » ?»« Je vois un jardin, de beaux arbres. Mais ne vois-tu rien d'autre ?»« Une jument, seigneur. Sa crinière est superbe. Ses membres sont fins. Elle est racée. J'aimerais l'acheter. » »« Tu aurais tort, seigneur. Elle est née d'une mère au bord du retour d'âge. » « Vieillard, c'est impossible, rétorque le commerçant. » Il court interroger le vendeur de la bête au haras. Et le sage a bien vu. Son maître revient. « Merci, grand-père. Ton œil voit l'invisible. Je t'offre un supplément de pain et de mouton rôti. »« Ah, seigneur, n'as-tu rien d'autre ?» soupire le vieillard. Et le temps passe. Au premier jour d'automne, on entend grand bruit dans la maison. Assis sur son tapis, le vieux sage écoute, ferme les yeux et il sourit. Son maître, en habit magnifique, vient joyeusement lui souhaiter le bonjour. « Grand-père, je me marie. Écoute, on chante. » « Père sage, je veux te présenter la reine de ce jour, ma fiancée, ma bien-aimée. « Approche, ma gazelle. Grand-père, franchement, comment la trouves-tu ? » ?»« Elle est belle, c'est l'évidence, seigneur. Je ne peux rien dire de plus. »« Ah ? Tu m'as l'air bien réticent, » dit le négociant, l'œil inclé. « N'oublie pas, tu me dois la vérité. »« Je te la dois, seigneur. Hélas, je te la dois. » »« Donc, il me faut parler. Voici. » Ta gazelle a pour mère une putain notoire. Qu'oses-tu me dire là ? Son grand-père était presque prince. Eh bien, vérifie. Le vieil homme, ce soir-là, a dîné de pain et de mouton rôti. Il avait eu encore raison. Et une semaine après ce jour, ses fils sont venus lui rendre visite. Les 1000 dinars en pièces d'or qu'ils avaient gagnés de la vente de leur père leur avaient changé la vie. Ils avaient acheté une épicerie fine. « Père, es-tu heureux ? Ton maître est-il honnête ? Oh, il l'est, mes enfants. Il me soigne, il me respecte, il m'honore. Chaque fois que je lui donne un conseil judicieux, il me fait porter du pain tendre et du mouton rôti. » Je lui en suis reconnaissant, car c'est la seule chose qui soit à sa mesure. Que pourrait m'offrir de mieux le fils d'une boulangère et d'un rôtisseur ? Comme il parlait ainsi, le négociant passait dans le couloir. Il a tout entendu. Il a rougi. Il a fulminé. Il était au bord de l'explosion. Mais il a contenu son malheur. Et il est allé voir sa mère, qui habitait dans le palais du sultan, qui était la sœur du sultan. « Mère, qui suis-je ? » ?»« Ah, mon fils, si tu me poses la question, c'est que tu dois déjà en savoir assez. Alors écoute, sache que des années, je n'ai pu donner un fils à ton père. Je m'en désespérais et lui n'en dormait plus. Alors nous t'avons acheté pour 1000 dinars en pièces d'or à une boulangère qui venait d'accoucher. Son mari, autant qu'il me souvienne, était rôtisseur à la rue des Cuisines. acheté, ma mère, pour 1000 dinars en pièces d'or ? Oh, vérité ! Puis le négociant est parti d'un grand éclat de rire. À peine de retour chez lui, il est allé embrasser son père, la sagesse. Mais il ne pouvait pas dire un mot tant il riait. Et le vieillard a compris. « Ah ! Tu as enfin appris l'humilité joyeuse et tu sais qui tu es. Tu n'as plus désormais besoin de mes services, donc adieu. Je vais aider mes garçons, ils ont besoin de moi. Ils ont acheté une épicerie fine où ils vendent ce miel qui sent le cimetière, au travail infini. » Et le vieillard est sorti. Il s'est étiré au soleil du jardin et d'un pas mesuré de centenaire vieille, il s'en est allé sous les arbres.
Merci Fanny. C'est très très beau. Donc, à mon tour de vous lire un petit texte, moins brillant que celui de Fanny, mais c'est un texte d'Alain Dissy qui s'appelle « Notre voisin de Palestine ». Et vous devez deviner qui c'est. Nous avions un bien étrange voisin qui passait ses jours et ses nuits à fumer des cigares brésiliens dans un grand lit à baldaquin. C'était un drôle de voisin qui murmurait des poèmes arabes à des femmes bien éduquées et qui, dès l'aube, passait en revue ses troupes, ses fidèles infirmières diplômées qui lui apportaient soins et réconfort. Ainsi, nous avions un voisin qui tutoyait les anges et les grands de ce monde. D'aucuns le virent même sourire aux mésanges dans les jardins de Percy. Notre voisin, passablement interlope, avait inventé la paix guerrière et la terreur rayonnante en ce bas monde. C'est ainsi que cet homme n'avait pas que des amis. Certains gangsters professionnels rêvaient de lui glisser une lame de chourin entre les côtes. Certains margoulins épluchaient ses comptes en banque et ses carnets de voyage, tandis que sa femme obstinée s'empiffrait de figues et de dattes fourrées, car enfin, ce voisin fut un roi sans royaume, venu de déserts lointains, entouré de conseillers et d'oreillers parmes, courtisé par les thérapeutes cultivés avec lesquels il enchaînait de manière enjouée les parties de moultesime. C'était un voisin un peu louche qui claquait la langue contre son palais et tourmentait les charbonnières qui venaient se poser sur le rebord de sa fenêtre. Une nuit, les fièvres se transformèrent en douleur et les médecins découvrirent une tumeur. Les séquelles d'une mauvaise vie firent de lui un grand malade. Aussi, nous lui avions fait porter des roses et des fruits confits pour l'aider à affronter les oiseaux de malheur et les songes obscurs qui ne manquèrent pas de commencer à le hanter. Nous avions un drôle de voisin qui ne parlait plus depuis qu'on parlait en son nom dans les couloirs, les halls, les cours insalubres et les sociétés de médias. Notre avis semblait dépassé par les événements. Le monde entier avait les yeux braqués sur sa chambre d'agonie, dans laquelle les palabres allaient à l'envi et les successeurs soupçonneux défilaient comme des papes lépreux qui venaient lui embrasser les mains, les pieds et les convoitises, car enfin, les successeurs fantoches lui faisaient les poches pour dénicher ses trésors enfuis et s'offrir un jour cet orient saphique et nauséeux dont il fut prince. Nous avions un voisin bien singulier qui partit pour un dernier voyage d'affaires sur les monts égyptiens pour rejoindre ses fidèles qui portèrent tour à tour ses rêves et son corps roide, son corps couvert d'un tapis de fleurs brodées, qui passait de main en main sous le regard effaré des policiers incrédules. Puis ce corps chut martyr dans une tombe en pierre sèche qui donnait sur la mer. Finalement, les clameurs se turent, les lambeaux de linceul outragés flottèrent dans les airs comme des papillons de papier. Les clameurs se turent et les rumeurs allèrent bon train. Elles gagnèrent les ruelles des villages jusqu'à la demeure des charmeurs de serpents. Elles ne gagnèrent pas à être mieux connues, car ces rumeurs distillaient de véritables poisons. Dernier mensonge pour la route, une longue route qui mena l'âme de notre voisin jusqu'au sable chaud et nu de sa Palestine. C'est un poème d'Alain Dissy, notre voisin de Palestine. Vous avez deviné qui c'était ce voisin de Palestine. C'était Mahmoud Darwish. Donc Fanny va vous lire un très beau texte issu de son ouvrage « Présence-abstance ». Fanny, à toi.
Texte que je découvre en même temps que vous. Les lettres blanches sur le tableau noir. on l'aura d'une aube bucolique. Comme l'on verse l'eau, lentement, dans la cruche jamais pleine, tu t'es imprégné tout à la fois de la forme incomplète et de son timbre. Tu as ainsi fait souffrir la gorge pour la soumettre au cygne, asservi le gosier à ce que voient les yeux. Si deux lettres, deux absurdes, sont assemblées, l'ambiguïté de la forme produit une clarté de son. Lente clarté qui ferait la voix à un sens doté d'image. Trois lettres forment alors un beb, une porte, ou une dar, une maison. Trois lettres inertes, sans valeur si séparées, bâtissent une maison assemblée. Oh, le beau divertissement, la belle magie. L'univers naît graduellement des mots. L'école devient alors terrain de jeu à l'imagination. Et tu cours vers elle avec la joie de celui à qui on a promis une découverte. Non seulement pour retenir ta leçon, mais pour apprendre l'art de nommer les choses. Tous les lointains se rapprochent, toutes les choses closes s'ouvrent. Écris correctement « fleuve », il coulera dans ton cahier. Le ciel aussi sera l'un de tes biens personnels, si ton orthographe est correct. Tout ce que tes petites mains n'atteignent pas t'appartient si tu maîtrises l'écriture. Qui écrit une chose la possède. Tu humeras le parfum de la rose dans le tas, bourgeon qui éclot. Tu apprécieras le goût des murs, le tut, par les deux T, le premier lié, le troisième délié, comme la paume de la main. Les lettres sont devant toi, arrache-les à leur neutralité, et joue-en comme un conquérant dans le délire de l'univers. Les lettres sont inquiètes, affamées d'images. L'image est assoiffée de sens. Les lettres sont poteries vides, emplis-les des veillées de la première conquête. Les lettres sont un appel muet dans des gravillons épars sur les chaussées du sens. Gratte une lettre avec une autre, une étoile naîtra. Rapproche une lettre d'une autre, tu entendras la voix de la pluie. Pose une lettre sur l'autre, tu trouveras ton nom dessiné comme un petit escalier. Toutes les lettres sont prêtes à accueillir la forme. Elle est en quête d'une main habile qui crée le besoin de cohésion. Tu n'as qu'à nommer les choses que tu connais déjà. D'autres se feront plus tard connaître de toi. La lettre Noun, telle un plat en cuivre pouvant accueillir une lune pleine, te captivera. Elle teinte, nostalgique, d'une quelconque satiété, jamais pleine. Mais elle ne cessera de teinter, qu'elle s'éloigne ou que tu t'éloignes. Elle grandira en toi et toi en elle, te donnera vie, t'éloignera de toi-même, tel un amour insistant, te rapprochera des autres. Le noun des femmes, du groupe, du dual, cœur du Anna, le moi, et des deux ailes libres de Nun, le nous. La sourate de Rahman te mènera à une voie doublée d'enchantement. Tu aimeras Dieu et guériras de l'anxiété, de l'interrogation première. Qui a créé Dieu? Tu aimeras la poésie et la cadence éperonnée par le Nun te mènera à une blanche nuit. Mots qui portent les cavaliers pris de la guerre de défense du puits vers un amour en guerre pour défendre une princesse enlevée dans les contrées des Djuns. Et le conte ne tient que par la trilogie de l'esprit chevaleresque, de la poésie et de l'amour. Destinée combattue par l'épée et par la poésie, mais qui ne l'emporte que par elles deux réunies, aucune tribu sans poète ne fut victorieuse. Toutes les poésies ont vaincu quand ils ont été défaits en amour. Quand les hôtes se retirent de la veillée chez ton grand-père, qu'ils te portent au lit, les contes t'auront préparé à rêver au gré de leur imagination débridée. Tu poursuivras tantôt les combattants de Antara, tantôt ceux de Mulaal.
Cette étude en Palestine. Merci Fanny d'avoir été mon invitée. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup comme tu comptes. Nous vous souhaitons un bon Noël à tous. Nous souhaitons une belle, belle année à Fanny qui prend sa retraite là bientôt. Et puis à mercredi prochain.
Au revoir.